put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do.
Vous êtes bien au Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu. Dans le studio avec nous, Julien Aubrin, bonjour.
Bonjour.
David Bascon.
Bonjour.
Et Florent Fichot.
Bonjour.
Vous avez préparé aujourd'hui une émission spéciale sur Antonin Artaud, avec plusieurs extraits de lectures de textes issus pas mal du théâtre et son double, c'est ça?
Oui.
Et donc je vais vous laisser l'antenne pendant une petite heure pour... nous faire découvrir cet auteur.
Merci. On va commencer par une bande-son de la voix de Roger Vitrac, qui est l'auteur de Victor ou les enfants au pouvoir, un auteur surréaliste, et qui présente un peu le Artaud, ce qu'il a fait. Et il avait enregistré cette présentation à l'occasion d'une émission de radio assez célèbre qui s'appelle Pour en finir avec le jugement de Dieu, que Artaud avait enregistré en 1947 et qui avait été interdite par le directeur de la radio française, que ça avait fait une grosse polémique à l'époque. Et donc l'émission à l'époque devait commencer par cette présentation de Roger Vitrac d'Antonin Artaud.
Vous allez entendre dans quelques instants « Pour en finir avec le jugement de Dieu » par Antonin Artaud. Auparavant, Roger Vitrac vous parle de l'auteur.
Antonin Artaud, un vagabond de l'absolu, un homme dont la pensée enveloppe son corps comme un maillot collant, un voyant qui passe ses paroles au crible de ses nerfs, un poète dont la chair se fait poésie, le mage d'une magie dont il est à la fois le sujet et l'objet, un mystique enfin qui s'abandonne aux férocités humaines, s'appliquant à en faire la preuve par sa propre souffrance, mais qui porte cette couronne brillante que les dieux destinent à ceux qu'ils égarent dans les forêts de ce monde pour leur mieux apparaître et mieux les retrouver. Et avec cela prédestiné sans doute. L'activité d'Antonin Artaud, s'exerçant toujours à sa ressemblance, marque les étapes de sa vie d'images significatives. Sous la direction de Charles Dullin, il joue et met en scène « La vie est un songe » de Calderon. Et le voilà, passé une fois pour toutes, de l'autre côté de la porte de corne, de la porte du rêve. Au cours de sa carrière de comédien, nous le retrouvons dans l'admirable film de Dreyer, c'est lui, le moine extatique, qui présente la croix à Jeanne d'Arc sur le bûcher. Dans le Napoléon de Gans, c'est Marat, assassiné dans sa baignoire. Entre-temps, il écrit « Le Pesner »,« L'art et la mort », L'ombilique des limbes, autant d'ouvrages dont les titres se suffisent à eux-mêmes. Ensemble, nous fondons le théâtre Alfred Jarry et nous entreprenons de porter le surréalisme au théâtre et de l'illustrer par tous les moyens d'expression, la plastique, la pantomime, la mimique, le décor réel. Ce sont les mystères de l'amour, le songe de Strindberg, Victor ou les enfants au pouvoir, le partage de Midi de Paul Claudel, première tentative riche d'enseignements qui aboutiront à l'extraordinaire et bouleversante représentation des Shenshi. On sait ce que les mises en scène du théâtre actuel doivent à ces réalisations manifestes. Je n'en veux pour preuve que l'admiration de Jean-Louis Barrault pour leur auteur. Antonin Artaud a d'ailleurs développé et précisé ses idées dans le théâtre et son double, ouvrage que ne manquent pas de consulter tous les jeunes metteurs en scène. Mais en marge du théâtre, l'esprit d'Artaud s'est exercé avec aisance vers des littératures et des destins hors série. Je rappellerai pour mémoire son excellente adaptation du Moine de Lewis et une monographie passionnée d'Elio Gabal. Dans cette présentation nécessairement trop courte, je ne puis hélas parler de ses enthousiasmes, de ses délires, de son goût naturel pour la pureté, de son honnêteté intellectuelle, de sa générosité et de cette véritable vertu qui est la sienne, littéralement et dans tous les sens. Je voudrais dire aussi les voyages, les départs et les retours imaginaires de cet évadé, prisonnier perpétuel, de cet explorateur constamment exploré de lui-même. Qu'il me suffise de dire qu'il garde sa ligne jusqu'au bout, publiant ses messages, signalant et saluant au passage les miracles du Mexique, la harpe d'or d'Irlande, le fantôme solaire de Van Gogh, et conduisant tout seul son char et ses chevaux au panache cruel dans ce cirque fermé dont il est à la fois le héros et le spectateur ébloui. Et maintenant, avant la transmission de la dernière œuvre d'Antonin Artaud, imaginez-le faisant sien l'appel fervent de Guillaume Apollinaire et vous disant ceci. Soyez indulgents quand vous nous comparez à ceux qui furent la perfection de l'ordre, nous qui quêtons partout l'aventure. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous voulons vous donner de vastes et d'étranges domaines. Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières de l'illimité et de l'avenir. Pitié pour nos erreurs, pitié pour nos péchés. Et enfin, il y a tant de choses que je n'ose pas vous dire, tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire. Ayez pitié de moi.
Merci Roger Vitrac. Donc il a parlé dans sa présentation du livre Le théâtre et son double en disant que c'était un livre de référence pour tous les jeunes metteurs en scène. Et comme vous êtes sur une émission de théâtre radiophonique, nous avons choisi aujourd'hui de lire quelques extraits principalement de ce livre Le théâtre et son double, donc qui a été publié en 1938 à partir de textes un peu disparates qui ont été écrits à partir de 1932. Nous allons commencer tout de suite avec la préface du théâtre et son double qui s'appelle « Le théâtre et la culture ».
Jamais, quand c'est la vie elle-même qui s'en va, on a autant parlé de civilisation et de culture. Et il y a un étrange parallélisme entre cet effondrement généralisé de la vie qui est à la base de la démoralisation actuelle et le souci d'une culture qui n'a jamais coïncider avec la vie et qui est faite pour régenter la vie. Avant d'en revenir à la culture, je considère que le monde a faim et qu'il ne se soucie pas de la culture et que c'est artificiellement que l'on veut ramener vers la culture des pensées qui ne sont tournées que vers la faim. Le plus urgent ne me paraît pas tant de défendre une culture dont l'existence n'a jamais sauvé un homme du souci de mieux vivre et d'avoir faim, que d'extraire de ce que l'on appelle la culture des idées dont la force vivante est identique à celle de la faim. Nous avons surtout besoin de vivre et de croire à ce qui nous fait vivre et que quelque chose nous fait vivre. Et ce qui sort du dedans mystérieux de nous-mêmes ne doit pas perpétuellement revenir sur nous-mêmes dans un souci grossièrement digestif. Je veux dire que s'il nous importe à tous de manger tout de suite, il nous importe encore plus de ne pas gaspiller dans l'unique souci de manger tout de suite notre simple force d'avoir faim. Si le signe de l'époque est la confusion, je vois à la base de cette confusion une rupture entre les choses et les paroles, les idées, les signes qui en sont la représentation. Ce ne sont certes pas les systèmes à penser qui manquent. Leur nombre et leurs contradictions caractérisent notre vieille culture européenne et française. Mais où voit-on que la vie, notre vie, ait jamais été affectée par ces systèmes ? Je ne dirais pas que les systèmes philosophiques soient choses à appliquer directement et tout de suite, mais de deux choses l'une. Ou ces systèmes sont en nous et nous en sommes imprégnés au point d'en vivre, et alors qu'importent les livres ? Ou nous n'en sommes pas imprégnés, et alors ils ne méritaient pas de nous faire vivre, et de toute façon qu'importe leur disparition ? Il faut insister sur cette idée de la culture en action, et qui devient en nous comme un nouvel organe, une sorte de souffle second. Et la civilisation, c'est de la culture qu'on applique et qui régit jusqu'à nos actions les plus subtiles. L'esprit présent dans les choses. Et c'est artificiellement qu'on sépare la civilisation de la culture, et qu'il y a deux mots pour signifier une seule et identique action. On juge un civilisé à la façon dont il se comporte, et il pense comme il se comporte. Mais déjà sur le mot de civilisé, il y a confusion. Pour tout le monde, un civilisé cultivé est un homme renseigné sur des systèmes, et qui pense en système, en forme, en signe, en représentation. C'est un monstre chez qui s'est développée jusqu'à l'absurde cette faculté que nous avons de tirer des pensées de nos actes, au lieu d'identifier nos actes à nos pensées. Si notre vie manque de souffle, c'est-à-dire d'une constante magie, c'est qu'il nous plaît de regarder nos actes et de nous perdre en considération sur les formes rêvées de nos actes, au lieu d'être poussés par eux. Et cette faculté est humaine exclusivement. Je dirais même que c'est une infection de l'humain qui nous gâte des idées qui auraient dû demeurer divines. Car loin de croire le surnaturel, le divin inventé par l'homme, je pense que c'est l'intervention millénaire de l'homme qui a fini par nous corrompre le divin. Toutes nos idées sur la vie sont à reprendre à une époque où rien n'adhère plus à la vie. Et cette pénible scission est cause que les choses se vengent. Et la poésie, qui n'est plus en nous, et que nous ne parvenons plus à retrouver dans les choses, ressort tout à coup par le mauvais côté des choses. Et jamais on n'aura vu autant de crimes dont la bizarrerie gratuite ne s'explique que par notre impuissance à posséder la vie.
Si le théâtre est fait pour permettre à nos refoulements de prendre vie, une sorte d'atroce poésie s'exprime par des actes bizarres où les altérations du fait de vivre démontrent que l'intensité de la vie est intacte et qu'il suffirait de la mieux diriger. Même si fort que nous réclamions la magie, nous avons peur au fond d'une vie qui se développerait tout entière sous le signe de la vraie magie. C'est ainsi que notre absence enracinée de culture s'étonne de certaines grandioses anomalies, et que par exemple, dans une île sans aucun contact avec la civilisation actuelle, le simple passage d'un navire qui ne contient que des hommes bien portants puisse provoquer l'apparition de maladies inconnues dans cette île, et qui sont une spécialité de nos pays. Zona, influenza, grippe, rhumatisme, sinusite, polynévrite, etc., etc. Et de même, si nous pensons que les nègres sentent mauvais, nous ignorons que pour tout ce qui n'est pas l'Europe, c'est nous, blancs, qui sentons mauvais. Et je dirais même que nous sentons une odeur blanche. Blanche, comme on peut parler d'un mâle blanc. Comme le fer rougit à blanc, on peut dire que tout ce qui est excessif est blanc. Et pour un Asiatique, la couleur blanche est devenue l'insigne de la plus extrême décomposition. Ceci dit, on peut commencer à tirer une idée de la culture, une idée qui est d'abord une protestation. une protestation contre le rétrécissement insensé que l'on impose à l'idée de la culture en la réduisant à une sorte d'inconcevable panthéon. Ce qui donne une idolâtrie de la culture, comme les religions idolâtres mettent des dieux dans leur panthéon. Protestation contre l'idée séparée que l'on se fait de la culture, comme s'il y avait la culture d'un côté et la vie de l'autre, et comme si la vraie culture n'était pas un moyen raffiné de comprendre et d'exercer la vie. On peut brûler la bibliothèque d'Alexandrie. Au-dessus et en dehors des papyrus, il y a des forces. On nous enlèvera pour quelque temps la faculté de retrouver ces forces. On ne supprimera pas leur énergie. Et il est bon que de trop grandes facilités disparaissent et que des hommes tombent en oubli. Et la culture sans espace ni temps et que détient notre capacité nerveuse reparaîtra avec une énergie accrue. Et il est juste que de temps en temps des cataclysmes se produisent qui nous incitent à en revenir à la nature, c'est-à-dire à retrouver la vie. Le vieux totémisme des bêtes, des pierres, des objets chargés de foudre, des costumes bestialement imprégnés, tout ce qui sert en un mot à capter, à diriger, à dériver des forces, est pour nous une chose morte, dont nous ne savons plus tirer qu'un profit artistique et statique, un profit de jouisseur et non un profit d'acteur. Or, le totémisme est acteur car il bouge, et il est fait pour des acteurs. Et toute vraie culture s'appuie sur les moyens barbares et primitifs du totémisme, dont je veux adorer la vie sauvage, c'est-à-dire entièrement spontanée. Ce qui nous a perdu, la culture, c'est notre idée occidentale de l'art et le profit que nous en retirons. Art et culture ne peuvent aller d'accord, contrairement à l'usage qui en est fait universellement. La vraie culture agit par son exaltation et par sa force. Et l'idéal européen de l'art vise à jeter l'esprit dans une attitude séparée de la force et qui assiste à son exaltation. C'est une idée paresseuse, inutile et qui engendre à bref délai la mort. Les tours multiples du serpent Quetzalcoatl, s'ils sont harmonieux, c'est qu'ils expriment l'équilibre et les détours d'une force dormante. Et l'intensité des formes n'est là que pour séduire et capter une force qui, en musique, éveille un déchirant clavier. Les dieux qui dorment dans les musées, le dieu du feu avec sa cassolette qui ressemble au trépied de l'Inquisition, Tlaloc, l'un des multiples dieux des eaux à la muraille de granit verte, la déesse mère des eaux, la déesse mère des fleurs, l'expression immuable et qui sonne sous le couvert de plusieurs étages d'eau, de la déesse à la robe de jade verte, l'expression transportée et bienheureuse, le visage crépitant d'arôme, où les atomes du soleil tournent en rond, de la déesse mère des fleurs. Cette espèce de servitude obligée d'un monde où la pierre s'anime parce qu'elle a été frappée comme il faut. Le monde des civilisés organiques, je veux dire dont les organes vitaux aussi sortent de leur repos. Ce monde humain entre nous, il participe à la danse des dieux sans se retourner ni regarder en arrière, sous peine de devenir, comme nous-mêmes, des statues effritées de sel. Au Mexique, puisqu'il s'agit du Mexique, il n'y a pas d'art, et les choses servent, et le monde est en perpétuelle exaltation.
À notre idée inerte et désintéressée de l'art, une culture authentique oppose une idée magique et violemment égoïste, c'est-à-dire intéressée. Car les Mexicains captent le manas, les forces qui dorment en toute forme, et qui ne peuvent sortir d'une contemplation des formes pour elles-mêmes, mais qui sortent d'une identification magique avec ces formes. Et les vieux totems sont là pour hâter la communication. Il est dur, quand tout nous pousse à dormir, en regardant avec des yeux attachés et conscients, de nous éveiller et de regarder comme en rêve, avec des yeux qui ne savent plus à quoi ils servent, et dont le regard est retourné vers le dedans. C'est ainsi que l'idée étrange d'une action désintéressée se fait jour, mais qui est action tout de même, et plus violente de côtoyer la tentation du repos. Toute vraie effigie a son ombre qui la double, et l'art tombe à partir du moment où le sculpteur qui modèle croit libérer une sorte d'ombre dont l'existence déchirera son repos. Comme toute culture magique que des hiéroglyphes appropriés déversent, le vrai théâtre a aussi ses ombres. Et de tous les langages et de tous les arts, il est le seul à avoir encore des ombres qui ont brisé leurs limitations. Et dès l'origine, on peut dire qu'elles ne supportaient pas des limitations. Notre idée pétrifiée du théâtre rejoint notre idée pétrifiée d'une culture sans ombre, et où, de quelque côté qu'il se retourne, notre esprit ne rencontre plus que le vide, alors que l'espace est plein. Mais le vrai théâtre, parce qu'il bouge et parce qu'il se sert d'instruments vivants, continue à agiter des ombres où n'a cessé de trébucher la vie. L'acteur qui ne refait pas deux fois le même geste, mais qui fait des gestes, bouge, et certes il brutalise des formes, mais derrière ces formes, et par leur destruction, il rejoint ce qui survit aux formes et produit leur continuation. Le théâtre qui n'est dans rien, mais se sert de tous les langages, gestes, sons, paroles, feux, cris, se retrouve exactement au point où l'esprit a besoin d'un langage pour produire ses manifestations. Et la fixation du théâtre dans un langage, parole, écrite, musique, lumière, bruit, indique à bref délai sa perte. Le choix d'un langage prouvant le goût que l'on a pour les facilités de ce langage et le dessèchement du langage accompagne sa limitation. Pour le théâtre, comme pour la culture, la question reste de nommer et de diriger des ombres. Et le théâtre qui ne se fixe pas dans le langage et dans les formes détruit par le fait les fausses ombres, mais prépare la voie à une autre naissance d'ombres autour desquelles s'agrège le vrai spectacle de la vie. Briser le langage pour toucher la vie, c'est faire ou refaire du théâtre. Et l'important est de ne pas croire que cet acte doive demeurer sacré, c'est-à-dire réservé. Mais l'important est de croire que n'importe qui ne peut pas le faire et qu'il y faut une préparation. Ceci amène à rejeter les limitations habituelles de l'homme et des pouvoirs de l'homme et à rendre infinies les frontières de ce que l'on appelle la réalité. Il faut croire à un sens de la vie renouvelé par le théâtre et où l'homme impavidement se rend le maître de ce qui n'est pas encore et le fait naître. Et tout ce qui n'est pas né peut encore naître pourvu que nous ne nous contentions pas de demeurer de simples organes d'enregistrement. Aussi bien quand nous prononçons le mot de vie, faut-il entendre qu'il ne s'agit pas de la vie reconnue par le dehors des faits, mais de cette sorte de fragile et remuant foyer auquel ne touchent pas les formes. Et s'il est encore quelque chose d'infernal et de véritablement maudit dans ce temps, c'est de s'attarder artistiquement sur des formes au lieu d'être comme des suppliciés que l'on brûle et qui font des signes sur leur bûcher.
De la pente amère, cruellement désespéré du cœur, s'ouvre le cercle des six croix. Très en bas, comme encastré dans la terre mère, désencastré de l'étreinte immonde de la mer qui bave. La terre de charbon noir est le seul emplacement humide dans cette fente de rocher. le rite et que le nouveau soleil passe par sept points avant d'éclater à l'orifice de la terre. Et il y a six hommes, un pour chaque soleil, et un septième homme qui est le soleil, tout cru, habillé de noir et de chair rouge. Or, ce septième homme est un cheval avec un homme qui le mène, mais c'est le cheval qui est le soleil et non l'homme. Sur le déchirement d'un tambour et d'une trompette longue, étrange, les six hommes qui étaient couchés, roulés à ras de terre, jaillissent successivement comme des tournesols, non pas soleil, mais sol tournant, des lotus d'eau, et à chaque jaillissement correspond le gond de plus en plus sombre et rentré du tambour, jusqu'à ce que tout à coup, on voit arriver au grand galop, avec une vitesse de vertige, le dernier soleil, le premier homme, le cheval noir avec un homme nu, absolument nu et vierge sur lui. Ayant bondi, ils avancent suivant des méandres circulaires et le cheval de viande saignante s'affole et caracole sans arrêt au fait de son rocher jusqu'à ce que les six hommes aient achevé de cerner complètement et s'y croient. Or, le ton majeur du rite est justement l'abolition de la croix. Ayant achevé de tourner, il déplante les croix de terre et l'homme nu sur le cheval arbore un immense fer à cheval qu'il a trempé dans une coupure de son sang.
Vous êtes toujours...
Sur le théâtre de la Gamelle.
Votre émission de théâtre.
Radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu.
Voilà. Vous assistez en ce moment à une émission de lecture sur l'auteur Antonin Artaud et plus particulièrement sur le théâtre et son double. On vient d'entendre la voix de Maria Cazares dans un extrait de la fameuse émission de radio d'Antonin Artaud pour en finir avec le jugement de Dieu. Cet extrait s'appelait La danse Toutogouri. Et maintenant, on va lire un nouvel extrait du théâtre et son double. Extrait du chapitre La mise en scène et la métaphysique.
Le théâtre contemporain est en décadence parce qu'il a perdu le sentiment d'un côté du sérieux et de l'autre du rire. Parce qu'il a rompu avec la gravité, avec l'efficacité immédiate et pernicieuse, et pour tout dire, avec le danger. Parce qu'il a perdu d'autre part le sens de l'humour vrai, et du pouvoir de dissociation physique et anarchique du rire. Parce qu'il a rompu avec l'esprit d'anarchie profonde qui est à la base de toute poésie. Il faut bien admettre que tout dans la destination d'un objet, dans le sens ou dans l'utilisation d'une forme naturelle, tout est affaire de convention. La nature, quand elle a donné à un arbre la forme d'un arbre, aurait tout aussi bien pu lui donner la forme d'un animal ou d'une colline. Nous aurions pensé arbre devant l'animal ou la colline, et le tour aurait été joué. Il est entendu qu'une jolie femme a une voix harmonieuse. Si nous avions entendu, depuis que le monde est monde, toutes les jolies femmes nous appeler à coups de trompe ou nous saluer de barrissement, nous aurions pour l'éternité associé l'idée de barrissement à l'idée d'une jolie femme, et une partie de notre vision interne du monde en aurait été radicalement transformée. On comprend par là que la poésie est anarchique dans la mesure où elle remet en cause toutes les relations d'objet à objet et des formes avec leur signification. Elle est anarchique aussi dans la mesure où son apparition est la conséquence d'un désordre qui nous rapproche du chaos. Je n'en donnerai pas de nouveaux exemples. On pourrait les multiplier à l'infini, et pas seulement avec des exemples humoristiques comme ceux dont je viens de me servir. Théâtralement, ces inversions de forme, ces déplacements de signification, pourraient devenir l'élément essentiel de cette poésie humoristique, et dans l'espace qui est le fait de la mise en scène exclusivement. Dans un film des Marx Brothers, un homme, croyant recevoir dans ses bras une femme, reçoit dans ses bras une vache, qui pousse un mugissement. Et par un concours de circonstances sur lesquelles il serait trop long d'insister, ce mugissement, à ce moment-là, prend une dignité intellectuelle égale à celle de n'importe quel cri de femme. Une telle situation, qui est possible au cinéma, n'est pas moins possible au théâtre tel quel. Il suffirait de peu de choses, et par exemple de remplacer la vache par un mannequin animé, une sorte de monstre doué de la parole ou d'un homme déguisé en animal, pour retrouver le secret d'une poésie objective, à base d'humour, à laquelle a renoncé le théâtre, qu'il a abandonné au music hall, et dont le cinéma, ensuite, a tiré parti.
J'ai parlé tout à l'heure de danger. Or, ce qui me paraît devoir le mieux réaliser à la scène cette idée de danger est l'imprévu objectif. L'imprévu non dans les situations, mais dans les choses. Le passage intempestif, brusque, d'une image pensée à une image vraie. Et par exemple, qu'un homme qui blasphème voit se matérialiser brusquement devant lui, en très réel, l'image de son blasphème. À condition toutefois, ajouterai-je, que cette image ne soit pas entièrement gratuite, qu'elle donne naissance à son tour à d'autres images de la même veine spirituelle, etc. Un autre exemple serait l'apparition d'un être inventé, fait de bois et d'étoffe, créé de toutes pièces, ne répondant à rien, et cependant inquiétant par nature, capable de réintroduire sur la scène un petit souffle de cette grande peur métaphysique qui est à la base de tout le théâtre ancien. Les Balinais, avec leurs dragons inventés, comme tous les Orientaux, n'ont pas perdu le sens de cette peur mystérieuse, dont ils savent qu'elle est un des éléments les plus agissants, et d'ailleurs essentiel, du théâtre, quand on le remet à son véritable plan. C'est que la vraie poésie, qu'on le veuille ou non, est métaphysique. Et c'est même, dirais-je, sa portée métaphysique, son degré d'efficacité métaphysique, qui en fait tout le véritable prix. Voilà la deuxième ou la troisième fois que je m'adresse ici à la métaphysique. Je parlais tout à l'heure à propos de la psychologie, d'idées mortes, et je sens que beaucoup seront tentés de me dire que s'il y a au monde une idée inhumaine, une idée inefficace et morte, et qui ne dit que peu de choses, même à l'esprit, c'est bien celle de la métaphysique. Cela tient, comme dit René Guénon, à notre façon purement occidentale, à notre façon anti-poétique et tronquée de considérer les principes en dehors de l'état spirituel énergique et massif qui leur correspond. Dans le théâtre oriental à tendance métaphysique, opposé au théâtre occidental à tendance psychologique, tout cet amas compact de gestes, de signes, d'attitudes, de sonorités qui constitue le langage de la réalisation et de la scène, ce langage qui développe toutes ses conséquences physiques et poétiques sur tous les plans de la conscience et dans tous les sens, entraîne nécessairement la pensée à prendre des attitudes profondes qui sont ce que l'on pourrait appeler de la métaphysique en activité. Je reprendrai ce point tout à l'heure. Pour l'instant, revenons-en au théâtre connu.
Là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale. Mais il a choisi de chier, comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca! Pour exister, il suffit de se laisser aller à être. Mais pour vivre, il faut être quelqu'un. Pour être quelqu'un, il faut avoir un os. Ne pas avoir peur de montrer l'os et de perdre la viande en passant. L'homme a toujours mieux aimé la viande que la terre des os. C'est qu'il n'y avait que de la terre et du bois d'os. Et il lui a fallu gagner sa viande. Il n'y avait que du fer et du feu, et pas de merde. Et l'homme a eu peur de perdre la merde. Ou plutôt, il a désiré la merde. Et pour cela, sacrifier le sang. Pour avoir de la merde, c'est-à-dire de la viande, là où il n'y avait que du sang et de la ferraille d'ossements, et où il n'y avait pas à gagner d'être, mais où il n'y avait qu'à perdre la vie. Oresh modo, toi dirai, Isa, coco. L'homme s'est retiré et il a fui. Alors les bêtes l'ont mangé. Ce ne fut pas un viol. Il s'est prêté à l'obscène repas. Il y a trouvé du goût. Il a appris lui-même à faire la bête et à manger le rat délicatement. Et d'où vient cette abjection de saleté? De ce que le monde n'est pas encore constitué. Ou de ce que l'homme n'a qu'une petite idée du monde et qu'il veut éternellement la garder. Cela vient de ce que l'homme, un beau jour, a arrêté l'idée du monde. Deux routes s'offraient à lui. Celle de l'infini dehors, celle de l'infime dedans. Et il a choisi l'infime dedans. Là où il n'y a qu'à presser le rat, la langue, l'anus ou le gland. Et Dieu lui-même a pressé le mouvement. Dieu est-il un être? S'il en est un, c'est de la merde. S'il n'en est pas un, il n'est pas. Or, il n'est pas. Mais comme le vide qui avance avec toutes ses formes, dont la représentation la plus parfaite, et la marche d'un groupe incalculable de morpions. Vous êtes fou, monsieur Artaud. Et la messe? Je renie le baptême et la messe. Il n'y a pas d'acte humain qui, sur le plan érotique interne, soit plus pernicieux que la descente du soi-disant Jésus-Christ sur les autels. On ne me croira pas, et je vois d'ici les haussements d'épaules du public, mais le nommé Christ n'est autre que celui qui, en face du morpion Dieu, a consenti à vivre sans corps, alors qu'une armée d'hommes, descendue d'une croix où Dieu croyait l'avoir depuis longtemps clouée, s'est révoltée et bardée de fer, de sang, de feu et d'ossements, avance, invectivant l'invisible, afin d'y finir le jugement de Dieu.
Je t'ai dit,
Bonjour à tous, vous êtes toujours sur l'émission Le Théâtre
de la Gamelle
sur Radio Canu. Et c'est une émission aujourd'hui consacrée à Antonin Artaud. Nous venons d'entendre un deuxième extrait de son émission de radio enregistrée en 1947 pour en finir avec le jugement de Dieu. Cette émission de radio était enregistrée par Maria Cazares qu'on a entendu tout à l'heure, Roger Blin, Paul Thévenin et l'auteur lui-même. Artaud disait de cette émission que c'était... comme une forme condensée de ce qu'il imaginait pour le théâtre de la cruauté. Et il voulait se servir de cette émission pour commencer à donner forme à son idée du théâtre de la cruauté. Et il l'a développé plus tard après cette émission. Et à ce propos, donc, on va vous lire un troisième extrait du livre Le théâtre et son double d'Artaud. Et c'est l'extrait qui s'appelle Le théâtre et la cruauté. Une idée du théâtre s'est perdue. Et dans la mesure où le théâtre se borne à nous faire pénétrer dans l'intimité de quelques fantoches et où il transforme le public en voyeur, on comprend que l'élite s'en détourne et que le gros de la foule aille chercher au cinéma, au music-hall ou au cirque des satisfactions violentes et dont la teneur ne déçoit pas. Au point d'usure où notre sensibilité est parvenue, il est certain que nous avons besoin avant tout d'un théâtre qui nous réveille nerfs et cœur. Les méfaits du théâtre psychologique venu de Racine nous ont déshabitués à cette action immédiate et violente que le théâtre doit posséder. Le cinéma, à son tour, qui nous assassine de reflets, qui, filtré par la machine, ne peut plus joindre notre sensibilité, nous maintient depuis 10 ans dans un engourdissement inefficace et où paraissent sombrer toutes nos facultés. Dans la période angoissante et catastrophique où nous vivons, nous ressentons le besoin urgent d'un théâtre que les événements ne dépassent pas, dont la résonance en nous soit profonde, domine l'instabilité des temps. La longue habitude des spectacles de distraction nous a fait oublier l'idée d'un théâtre grave, qui, bousculant toutes nos représentations, nous insuffle le magnétisme ardent des images et agit finalement sur nous à la star d'une thérapeutique de l'âme dont le passage ne se laissera pas plus oublier. Tout ce qui agit est une cruauté. C'est sur cette idée d'action poussée à bout et extrême que le théâtre doit se renouveler. Pénétré de cette idée que la foule pense d'abord avec ses sens et qu'il est absurde, comme dans le théâtre psychologique ordinaire, de s'adresser d'abord à son entendement, le théâtre de la cruauté se propose de recourir au spectacle de masse, de rechercher dans l'agitation des masses importantes, mais jeter l'une contre l'autre et convulser un peu de cette poésie qui est dans les fêtes et dans les foules les jours aujourd'hui trop rares où le peuple descend dans la rue. Tout ce qui est dans l'amour, dans le crime, dans la guerre ou dans la folie, il faut que le théâtre nous le rende s'il veut retrouver sa nécessité. L'amour quotidien, l'ambition personnelle, les tracas journaliers n'ont de valeur qu'en réaction avec cette sorte d'affreux lyrisme qui est dans les mythes auxquels des collectivités massives ont donné leur consentement.
C'est pourquoi, autour de personnages fameux, de crimes atroces, de surhumains dévouements, nous essaierons de concentrer un spectacle qui, sans recourir aux images expirées des vieux mythes, se révèlent capables d'extraire les forces qui s'agitent en eux. En un mot, nous croyons qu'il y a, dans ce qu'on appelle la poésie, des forces vives, et que l'image d'un crime présenté dans les conditions théâtrales requises est pour l'esprit quelque chose d'infiniment plus redoutable que ce même crime réalisé. Nous voulons faire du théâtre une réalité à laquelle on puisse croire et qui contienne pour le cœur et les sens cette espèce de morsure concrète que comporte toute sensation vraie. De même que nos rêves agissent sur nous et que la réalité agit sur nos rêves, nous pensons qu'on peut identifier les images de la poésie à un rêve, qui sera efficace dans la mesure où il sera jeté avec la violence qu'il faut. Et le public croira aux rêves du théâtre à condition qu'il les prenne vraiment pour des rêves et non pour un calque de la réalité. À condition qu'il lui permette de libérer en lui cette liberté magique du songe, qu'il ne peut reconnaître qu'empreinte de terreur et de cruauté. D'où cet appel à la cruauté et à la terreur, mais sur un plan vaste et dont l'ampleur sonde notre vitalité intégrale, nous met en face de toutes nos possibilités. C'est pour prendre la sensibilité du spectateur sur toutes ses faces que nous préconisons un spectacle tournant et qui, au lieu de faire de la scène et de la salle deux mondes clos, sans communication possible, répandent ces éclats visuels et sonores sur la masse entière des spectateurs. En outre, sortant du domaine des sentiments analysables et passionnels, nous comptons faire servir le lyrisme de l'acteur à manifester des forces externes et faire rentrer par ce moyen la nature entière dans le théâtre, tel que nous voulons le réaliser. Pour vaste que soit ce programme, il ne dépasse pas le théâtre lui-même, qui nous paraît s'identifier, pour tout dire, avec les forces de l'ancienne magie. Pratiquement, nous voulons ressusciter une idée du spectacle total, où le théâtre saura reprendre au cinéma, au musical, au cirque et à la vie même, ce qui de tout temps lui a appartenu. Cette séparation entre le théâtre d'analyse et le monde plastique nous apparaissant comme une stupidité. On ne sépare pas le corps de l'esprit, ni les sens de l'intelligence, surtout dans un domaine où la fatigue sans cesse renouvelée des organes a besoin de secousses brusques pour raviver notre entendement. Donc, d'une part, la masse et l'étendue d'un spectacle qui s'adresse à l'organisme entier. De l'autre, une mobilisation intensive d'objets, de gestes, de signes utilisés dans un esprit nouveau. La part réduite faite à l'entendement conduit à une compression énergique du texte. La part active faite à l'émotion poétique obscure oblige à des signes concrets. Les mots parlent peu à l'esprit. L'étendue et les objets parlent. Les images nouvelles parlent, même faites avec des mots. Mais l'espace tonnant d'images, gorgé de sons, parle aussi, si l'on sait de temps en temps ménager des étendues suffisantes, d'espaces meublés de silence et d'immobilité. Sur ce principe, nous envisageons de donner un spectacle où ces moyens d'action directe soient utilisés dans leur totalité. Donc un spectacle qui ne craigne pas d'aller aussi loin qu'il faut dans l'exploration de notre sensibilité nerveuse avec des rythmes, des sons, des mots, des résonances et des ramages dont la qualité et les surprenants alliages font partie d'une technique qui ne doit pas être divulguée. Pour le reste, et pour parler clair, les images de certaines peintures de Grunewald ou de Hieronymus Bosch disent assez ce qui peut être un spectacle où, comme dans le cerveau d'un saint quelconque, les choses de la nature extérieure apparaîtront comme des tentations. C'est là, dans ce spectacle d'une tentation où la vie a tout à perdre et l'esprit tout à gagner, que le théâtre doit retrouver une véritable signification. Nous avons par ailleurs donné un programme qui doit permettre à des moyens de mise en scène pure, trouvés sur place, de s'organiser autour de thèmes historiques ou cosmiques, connus de tous. Et nous insistons sur le fait que le premier spectacle du théâtre de la cruauté roulera sur des préoccupations de masse, beaucoup plus pressantes et beaucoup plus inquiétantes que celle de n'importe quel individu. Il s'agit maintenant de savoir si, à Paris, avant les cataclysmes qui s'annoncent, on pourra trouver assez de moyens de réalisation, financiers ou autres, pour permettre à un semblable théâtre de vivre, et celui-ci tiendra de toute façon parce qu'il est l'avenir. Ou s'il faudra un peu de vrai sang, tout de suite, pour manifester cette cruauté.
Vous êtes bien sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique. Vous venez d'écouter encore Antonin Artaud, une lecture du théâtre et la cruauté.
Et pour finir, on va lire un petit texte qui n'est pas dans ce livre, qui est une lettre d'Antonin Artaud à Marie Dubuc, tirée des nouveaux écrits de Rodez.
Paris, 8 août 1937. Je vais entreprendre un dernier voyage et je vous demande un dernier effort. Après quoi, je ne vous importunerai plus jamais. Je suis profondément las et fatigué de lutter. Voilà 4 mois que je n'ai plus repris la drogue que je prenais, opium et dérivés. J'ai pris des palliatifs, d'autres drogues, et spécialement une autre drogue qui, évidemment, ne peut remplacer la première, celle que j'ai prise pendant 17 ans. Or, je sais qu'une seule dose de la première, et c'est la mort. Pour moi, la mort en tout cas, d'une voie terrible et merveilleuse, dans laquelle je suis engagé et qui s'est, par miracle, miracle et prédestination, ouverte. L'effort que je vous demande consiste en ceci. Vous m'avez fait 2 prédictions dont je n'ai jamais oublié les termes. Vous m'avez dit « Il y a autour de vous une lumière extraordinaire ». Un jour, vous serez au-dessus des autres. Je n'avais pas compris à l'époque de quelle sorte de lumière il s'agissait, ni comment je serais au-dessus des autres. Je l'ai compris. Car depuis 2 mois environ, je suis entré dans l'extraordinaire. J'ai vu qui j'étais, ce que je faisais en ce monde, et j'ai compris la torture de ma séparation de la vie, étant tout de même un homme et un vivant. Peu m'importe d'être au-dessus ou au-dessous des autres. Dans le monde où je suis, il n'y a ni dessus ni dessous. Il y a la vérité qui est terriblement cruelle. C'est tout. Mais voici. J'ai donc trouvé quelque chose qui, en général, n'est pas au monde. Ce que c'est, vous le verrez aussi bien que moi. J'ai trouvé, en plus, quelque chose qui est de ce monde, que tout le monde voit, et qui intrigue terriblement et inquiète tout le monde. Je sais que cette chose peut faire des choses étranges et redoutables. J'avoue qu'il me manque une dernière clé. Je pense que mon intuition personnelle peut me la donner. Mais j'ai besoin actuellement que mon intuition soit confirmée. J'attends un dernier mot, un dernier signe. C'est pourquoi j'entreprends un dernier voyage, et je l'entreprends seul. Il faut que vous sachiez que ma volonté humaine s'est montrée redoutablement décidée à rester dans une terrible voie. Sans drogue, sans femme. Car depuis 4 mois, j'ai essayé exactement 3 fois de reprendre une dose d'opium. Le résultat a été désastreux et s'est traduit chaque fois par la perte immédiate, pour quelques jours, des dons que j'avais acquis. Quant aux femmes, leur présence ne fait que m'irriter et me troubler. C'est tout de suite la catastrophe pour mon être intérieur. Je vous envoie un peu de mes cheveux et un morceau de ficelle de chanvre qui approche depuis plusieurs semaines la chose. Si vous avez des lumières sur la chose, mon voyage, moi et ma lumière, c'est de ce côté que je vous demande de diriger pour la dernière fois l'effort provocateur et obstiné de votre clairvoyance. Faites cela comme si vous appeliez les esprits. Et merci. Antonin Artaud, 21 rue Daguerre. P.S. Mon état d'esprit actuel, usé par une souffrance sans arrêt, est de voir enfin me parler ce que j'appelle et ne puis dire, ou de mourir d'ici 3 mois, empoisonné. Ajouté en travers dans la marge. Il s'agit de voir, aussi bien dans le passé que dans l'avenir, car la chose vient d'un passé extrêmement reculé, mais je crois que son avenir est proche.
C'était une émission consacrée à Antonin Artaud. Merci à Julien Aubrin, David Bescon et Florent Fichot pour l'avoir préparé. Merci à Ariana pour la technique. La semaine prochaine, vous pouvez écouter une émission sur Surprise.
C'est pas la toile ?
Non, c'est la semaine d'après. Alors, a priori, ce sera peut-être une lecture d'un auteur flamand, mais pas organisée par nous ici présents, puisque nous ne sommes pas là. Mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de la compagnie lesmonturesdutemps.fr. Merci beaucoup à vous trois.
Merci Anaïs.
Merci beaucoup.
Et à la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.
Je pourrais pas te faire un bon jingle.